I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mise à mal. Je le dis normalement parce que c'est un épisode sur le burn-out, donc je voulais prendre une voix un peu cramée.
Non,
ça j'allais dire, on n'a jamais fait l'épisode tous les deux. T'es stressé ?
Pas du tout, mais
c'est
je suis
un
très
peu notre première fois.
C'est vrai.
Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce que je suis avec mon acolyte.
Armand Olayan, pour vous servir.
T'es apparu dans un nuage de fumée avec des feux d'artifice. Mais très peu de moyens, donc
c'était juste un briquet.
Voilà. Et on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui je voudrais parler du burn-out avec toi, Armen, mais sous un format un peu intimiste, un peu comme ça, comme un ping-pong qu'on ferait, genre bon, un peu.
J'essaie de créer une ambiance un peu douce et intimiste avec du jazz, mais il n'y a pas de jazz, du coup je claque des doigts.
Claque des doigts très doucement pendant que je parle de ping-pong, donc on est vraiment pas sur la même métaphore. Et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal quand même, c'est qu'un homme doit tenir à tout prix. Et alors, pourquoi c'est un épisode particulier que je voulais faire avec toi et qu'avec toi ? Parce que je suis en petite forme. Et pour le dire, c'est un euphémisme, en fait, je vais pas très bien. En fait, pour le dire, vraiment, c'est la merde. Non, en vrai, je vais pas très bien parce que je suis au milieu d'un burn-out moi-même, que j'ai entamé en juillet, je dirais. J'allais dire en janvier, mais peut-être qu'il a commencé en janvier. En tout cas, il a explosé en juillet-août, on va en parler. Et je commence par ça parce que je trouve qu'on parle jamais des difficultés qu'on traverse au moment où on les traverse. C'est comme s'il y avait besoin d'attendre pour en tirer une grande leçon et pouvoir dire voilà comment je m'en suis sorti et tout ça. Et je trouve que ça manque d'une parole un petit peu sincère, juste de dire je sais pas ce qui se passe, mais c'est la merde et voilà ce que je vais en dire. Donc voilà, moi je suis en plein milieu d'un burn-out et c'est un peu un épisode... Du coup, juste entre nous, parce que je sais qu'avec toi, il n'y aura pas vraiment de charge mentale pour moi d'animer une émission ou quoi. On va juste parler et ça peut être une émission plus courte et c'est cool parce que je n'arrive plus en fait à animer des émissions pour le moment. Et c'est aussi un épisode particulier pour dire que je vais avoir besoin d'une pause et je le dis d'emblée, donc désolé. Mais c'est un peu un épisode au revoir, pause, ce n'est pas un adieu. Mais parce que j'ai besoin de récupérer de ce qui m'est arrivé et j'ai essayé de relancer une saison 4 et de tenir, mais en fait j'y arrive pas, j'ai besoin de repos et donc je vous dis au revoir avec cet épisode. Long laïus pour lancer le sujet, mais parce que je pense que c'était important pour planter le décor. Et Armen, je te voyais noter des choses de but en blanc.
Non, tu disais qu'on avait tendance à en parler de burn-out après et pas sur le moment, mais j'aurais même envie de dire on a tendance à pas en parler du tout. C'est quand même assez rare d'entendre parler de burn-out. Enfin, je trouve, en tout cas moi dans mon milieu, j'en entends pas parler souvent, alors que ça arrive quand même. Enfin, j'ai aucun chiffre en tête, donc je vais pas les donner. Non, si je rigole, je vais en donner. Non, je rigole. Mais enfin, je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de gens que ça qui en ont et qui n'en parlent pas. Je pense que c'est encore un sujet assez tabou.
Ouais, c'est tabou. Mais c'est vrai qu'avec moi, je l'avais dit dès le début. Hein,
ouais, c'est vrai.
Avant
tout le monde.
Je suis un 37 heures. Mais quand le premier confinement est arrivé, je me suis dit on va payer très très cher les conséquences sur la santé mentale de ce qui est en train d'arriver. Et ça commence à nous arriver aujourd'hui où on commence à. J'ai dit beaucoup de fois le mot commence, non ? Oh, je fais que commencer en fait.
Allez.
On voit les impacts sur la santé mentale des confinements, de la crise qui est en train de se passer, etc. Et du coup, maintenant. On en parle, je vois des mutuelles en parler, je vois des acteurs qui ont un intérêt à en parler commencent à plus en parler. J'ai dit beaucoup de fois le mot parler maintenant, j'ai des mots fétiches toutes les minutes.
Commence parler.
mais Donc, c'est un sujet qui se libère un peu plus qu'il y a 3-4 ans, j'ai l'impression. Parce que moi, je suis un peu dans le secteur de la santé mentale, donc c'est un sujet qui m'intéresse de base. Et je voyais qu'on n'en parlait pas, que c'était hyper tabou. Là, j'ai l'impression que c'est un peu moins tabou. Mais à chaque fois, les gens qui vous en parlent, c'est des gens qui ont un intérêt à vous en parler. Et j'aimerais un tout petit peu sortir de ça. Moi, j'ai zéro intérêt à vous en parler, en faisant des liaisons. Sauf de dire, je fais une pause, mais c'est pas un prétexte. J'avoue qu'il y avait plus aucun sujet que je voulais traiter là en ce moment parce que je suis trop fatigué. À part celui-là, parce que c'est un peu la seule réalité que je suis en train de vivre, c'est que je suis épuisé et que je trouve que c'est important d'en parler sans que ça tire la couverture à moi ou que j'en sorte un crédit de ouf. Parce que de toute façon, je vais faire une pause après. Donc je m'attends pas à ce que je sois interviewé après pour ce sujet. Donc voilà, je voudrais qu'on en parle simplement sans essayer d'être des héros.
Oui. Mais je trouve ça super intéressant d'en parler sur le moment, sachant que c'est quelque chose que tu es en train de vivre, que de rappeler que le bon moment pour s'arrêter, c'est le plus tôt possible, et qu'en fait, on peut toujours attendre et repousser l'échéance, mais il y a un moment où en fait on n'aura plus le choix physiquement, quoi. Et du coup voilà, je trouve ça bien que toi que t'attendes pas ce moment-là, sachant que, enfin, je pense que tu en parleras, mais t'as déjà eu au moins une expérience similaire où t'as attendu plus longtemps justement, donc t'as pu voir que c'était pas une bonne idée de forcer. Et voilà, de se rappeler que voilà, il faut arrêter vraiment le plus vite possible quand on a encore le choix et la possibilité de le faire. Donc voilà, c'est bien d'avoir ce témoignage là.
Et c'est hyper important ce que tu dis. Je pense, moi, ce qui m'embête, c'est que je pense honnêtement que c'est des résidus de masculinité toxique envers moi-même qui ont fait que j'ai tenu si longtemps. Parce que je me suis dit, je dois tenir la barre. C'est pas grave d'être fatigué. J'ai une mission importante. Enfin, à chaque fois soit prétexter mon honneur personnel, soit l'honneur de la mission que je défends, parce qu'il n'y a pas que le podcast, je fais d'autres choses, même si ça va dans ce sens-là, mais j'ai voulu tenir beaucoup trop longtemps, et la vérité, même si j'aimerais pouvoir dire « ouais, je m'arrête au bon moment », c'est que je m'arrête trop tard. Encore aujourd'hui, je parlerai de mon ancien burn-out, qui est en fait très différent, mais n'empêche. Là, je me suis arrêté trop tard, parce que j'ai fait du mal dans ma vie, à mes proches et notamment à ma copine. Alors c'était pas irrécupérable non plus, mais cet été je savais pas que j'étais en burn-out et du coup j'ai été très dur envers elle, en fait, verbalement, hein, mais je me suis emporté pour aucune raison, j'étais tout le temps énervé, c'était tout le temps sa faute parce que du coup j'arrivais pas à voir qu'en fait c'était moi qui allais pas bien. Donc ça a causé des dégâts dans ma relation, et une relation que j'aimerais préserver, en fait, pas du tout faire ça. Ma relation et cette personne que j'aime très fort, donc c'est quand même con. Mais ça a aussi porté préjudice sur ma santé à moi, où là si j'arrive à parler, c'est que ça va un peu mieux. Mais en septembre, octobre, j'étais atteint cognitivement, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à réfléchir, et ça m'inquiétait parce que vraiment mon cerveau était incapable de produire une pensée sensée, quoi. Et donc j'ai été trop atteint, et ça m'ennuie parce que je l'ai pas vu venir, et j'ai pas vu que c'était, je pense, hein, de la toxicité que je m'infligeais envers moi-même. Donc voilà, mais ton message est hyper important et j'aimerais en parler tout de suite, juste pour pas faire le fier, dire que ça va pas et que c'est pas la peine d'en arriver là, et peut-être dire un peu les signes pour que vous puissiez voir ce qui vous arrive avant que ça arrive.
Je voudrais juste nuancer sur le fait que tu parlais de que c'était une pression un peu masculine, justement, de ça, et je pense qu'on vit globalement dans une société où, dans le monde du travail, en tout cas, je pense que c'est une pression qui est mise aussi
mise à mal
qui est mise sur tout le monde, en fait, quoi. Le truc de voilà, il faut se forcer, il faut y aller, et le truc de pas écouter son corps, en fait, qui est très mis en avant, voilà, quel que soit notre
mise en avant. Et c'est vrai, et d'ailleurs, si vous écoutez la fin de l'épisode 2 de la saison 4, donc l'épisode d'avant, sur l'argent, je dis que je vais pas bien à cause de la pression financière, et en fait, donc la pression liée au fait de travailler pour avoir de l'argent parce que je suis freelance, c'est ça qui m'a foutu dedans, en fait. Et il y a plein d'autres choses, évidemment, je pense qu'ils sont quand même patriarcales et capitalistes, les deux, en fait. Plus ça va, plus je me dis que les deux sont vraiment très très intriqués, et je n'arrive pas à les démêler l'un de l'autre, mais oui, en fait, c'est la pression pour subvenir à mes besoins qui a fait que je me suis pas arrêté, et j'ai pas du tout tenu compte de ce que tu dis, en fait, des alertes physiques graves, en fait. C'est vraiment, à chaque fois je me disais, je suis fatigué, non, je suis un petit peu triste, non, c'est pas grave, alors qu'en fait c'était de plus en plus grave, et j'ai dû, en fait, le corps m'a immobilisé, ce qui est marrant, c'est que j'ai cru que j'étais déprimé, que je faisais une dépression, alors qu'en fait, le corps m'a immobilisé pour me dire repose-toi. Et au lieu de comprendre repose-toi, j'ai compris t'es en dépression. Et j'ai fait une drôle d'assimilation. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il aurait fallu que je comprenne, je vais me reposer, ça va aller mieux, plutôt que de dire j'ai besoin de me reposer, donc je vais pas bien. Donc voilà, c'est aussi...
Comment t'as fait la différence entre les deux?
Je l'ai pas fait pendant 2 mois et demi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Mais comment t'as fini par y venir?
Je suis allé voir une médecin généraliste qui m'a dit que je faisais un burn-out. Mais qui m'a dit que j'étais dans une phase dépressive du burn-out, donc en fait bien entamée. Elle m'a mis sous antidépresseur, ce qui m'a soulagé dans un premier temps, mais qui n'était pas du tout la solution et que j'ai arrêté après. Donc attention à l'automédicamentation, moi je connais un peu, donc du coup j'ai pu faire gaffe à ce que je faisais et être vigilant. Mais en fait, ça m'a soulagé au début parce que je me suis dit c'est pas moi qui suis faible, c'est pas que de ma faute. Et les médicaments ont un petit peu, les antidépresseurs, moi ça m'a un petit peu mis dans une zone grise où ça n'allait pas mal, mais ça n'allait pas bien. Ce qui était toujours mieux que d'aller mal en fait. Donc, mais après je me suis dit j'ai besoin quand même de récupérer mes facultés cognitives et de m'en sortir, et surtout d'aller traiter le sujet qui a fait que j'en arrive là. Donc c'est elle qui m'a dit que je faisais un burn-out, qui m'a traité pour une dépression qui n'en était pas une. Et après, comment j'ai fait? J'ai juste appelé ma thérapeute. J'ai mis 2 mois et demi avant de le faire, par fierté, par ego mal placé, par aussi j'avais envie de m'en sortir tout seul, parce que ça fait 10 ans que je fais une thérapie, et je me dis putain, maintenant je devrais être capable de m'en sortir tout seul. Et en fait, je suis en train de rencontrer un énorme big boss pour moi, et que j'ai pas réglé, hein, qui est sur la reconnaissance, et qui est sur l'argent et la sécurité liée à l'argent. Bien, alors désolé.
Mais salut à tous, c'est Squeezie.
Alors comme vous pouvez l'entendre à la voix d'Armen, on a dû faire une pause parce que j'ai eu un problème d'enregistrement et j'ai dû redémarrer mon ordinateur. Donc c'est passé 45 minutes et beaucoup de verres.
45 minutes. Et voilà. Si jamais il y a des marques d'ordi qui veulent sponsor le podcast,
ouais, ça serait bien.
Envoyez-moi un ordinateur, Florian.
Je sais même pas les marques d'ordi.
Steve Jobs, si tu nous écoutes.
Un Steve Jobs, c'est une marque d'ordi, ça?
Non, c'est le mec à
côté. Vraiment pour une merde. Bref, et donc ça m'a coupé en pleine phrase, je pense, de ce que j'étais en train de dire, de palpitant, mais j'ai oublié. Mais sauf que Armen, tu as noté ce que tu allais dire pour rebondir à mon truc. Donc
exactement.
On va faire
je vais bouncer.
C'est Memento en fait.
Oui.
C'est un film, un très bon film de Nolan au passage.
Une Inception dans le Memento, je dirais.
Oh là là, tu connais bien tes réalisateurs, toi.
Non, je disais que c'est quand même fou parce que t'as eu plusieurs fois recours à la thérapie, et ce qui t'a toujours été bénéfique. A priori, t'as pas de ressenti ou de par rapport à la thérapie.
Pas du tout.
Et là, malgré tout, tu as, comme tu l'as dit par fierté, attendu trop longtemps avant de faire appel à cette thérapeute. Et je pense que c'est très souvent le cas, enfin, chez beaucoup de gens. Et pour moi, ça a été la même chose. Bon, moi, je suis jamais allé jusqu'au burn-out, mais la fois où on va dire que le stress de mon... Enfin, un stress a pris trop d'ampleur, j'ai quand même attendu que physiquement, il y ait énormément de signes. Donc, en l'occurrence, c'était un blocage du dos. Vraiment, je pouvais plus bouger, quoi. Mais ça faisait déjà plusieurs jours que je commençais à aller vraiment pas bien, quoi. Et j'ai quand même attendu le dernier moment pour faire quelque chose, et c'est quand même fou. On sait que les thérapies existent, on sait que ça marche, on sait que c'est pas aussi simple de se dire non mais c'est bon, ça va aller, et en effet ça va aller, non c'est pas vrai. Et donc voilà, c'est juste une remarque, quoi. On a beau être des personnes qui sont quand même à l'écoute de leur corps, qui ont conscience qu'il existe des solutions, et ben malgré tout ça on attend le dernier moment, le moment où on n'a plus le choix pour faire appel à quelqu'un. Donc voilà, s'il y a une leçon à retenir, c'est n'attendez pas le dernier moment.
Ben ouais, et en plus on en a les moyens, parce que je peux comprendre le blocage financier, mais déjà il faut savoir que maintenant la sécurité sociale rembourse les séances de psychologue, donc toutes les thérapies ne sont... Oui, tu regardais.
T'inquiète, oui,
j'ai eu le stress. Ouais, tu regardes?
Oui,
je regarde,
ouais, je suis vigilant, mais...
Batman. Oui, parce que l'écran d'ordinateur est derrière moi, Armen est devant, donc Armen gère. Et en fait...
Richard gère. Oh, pardon, je suis désolé.
Richard Gere, la fougère.
Ouais, sans l'accent, c'était moche en plus. J'ai hésité parce que c'est Gere, non, c'était pas le même mot.
Richard Gere, c'est vraiment une.
Attends pour moi.
L'État Gere.
L'État Gere.
Bref, donc l'État prend en charge pour cette transition.
La communauté de communes Gere. Non, ça marche pas.
Les slogans. Donc, oui. Maintenant, la sécurité sociale, sociale rembourse jusqu'à 8 séances de thérapie.
Jusqu'à 8 pintes
remboursées par la sécurité.
On peut tromper 8 fois. 8 fois. Non, on, et donc, 8 fois de séances.
8 fois de séances.
Non, de psy, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec un psychologue et si vous avez les moyens de faire autre chose, faites-le. Moi pour le coup, donc j'ai recours à la thérapie brève qui pour moi marche très bien, notamment la programmation neuro-linguistique. Je ne sais pas si je l'avais bien prononcé la première fois.
Pas ouf.
Hein. J'ai un petit peu savonné. Et l'hypnose ericksonienne qui marche très bien avec moi. Et surtout, en fait, c'est pas tant la méthode que le thérapeute qui compte. Et maintenant, j'ai quelqu'un de confiance. Mais c'est surtout que j'ai les moyens et j'ai le temps et je comprends pas pourquoi je suis pas allé, mais je pense que je voulais m'en sortir tout seul et en fait c'était mal placé parce que je me suis forcé trop longtemps. Bon, bref, ce qui me pousse à ce qui m'amène à te dire, toi Armen, oui, comment t'as réussi à avoir à appeler à l'aide avant que ça soit catastrophique, même si j'entends que t'as quand même eu des symptômes physiques?
C'est que j'avais pas le choix. Enfin, j'ai eu deux expériences comme ça, on va dire, l'approche d'un burn-out, donc sans y aller les deux fois. Donc la première, j'ai pas eu le choix parce que en fait j'aurais pas pu aller travailler. C'est-à-dire que là vraiment j'étais bloqué, et je pense aussi le fait de d'avoir ton expérience, parce qu'en fait donc j'ai fait appel à la même thérapeute que celle que tu vois, donc de principalement de PNL, on peut dire ça,
ODD,
et tu vas faire que des citations de
pardon, les drapeurs français blancs
de Babtou cisgenre. En vrai, je sais pas comment. Enfin, j'aurais réagi différemment si je t'avais pas eu dans mon entourage, déjà.
Mais réagi comment? Pardon, je t'interromps, mais ça m'intéresse.
C'est dur à dire. Je pense que j'aurais attendu. Enfin, j'aurais trouvé une autre solution. Non, si, ça y est, je sais. C'est que, en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est pas d'avoir fait appel à cette personne-là, c'est d'aller voir un médecin. En fait, j'étais à un stade médicamenteux, on va dire. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, j'avais 24 heures pour me débloquer le dos. Et
Jack Bauer, en fait.
J'étais, ouais, exactement.
J'arrête, je suis désolé, j'arrête. Voilà pourquoi la règle, c'est de pas couper la parole, parce que je dis que de la merde, en fait.
Non, ça dépend. Si tu coupes la parole pour dire un truc intéressant, c'est cool. Mais en l'occurrence.
Je vais vraiment la ferme ta gueule. Ok, j'arrête. À partir de maintenant, j'arrête.
Non, mais donc voilà, j'ai eu un réflexe assez cartésien, enfin non, bref, mais voilà, j'avais un problème, j'avais le dos bloqué, je savais qu'il fallait que je remplisse la mission que j'avais acceptée, donc je suis d'abord allé voir un médecin. Moi je pensais, j'y allais en fait pour qu'il me prescrive genre des relaxants de muscles ou trucs comme ça, genre de myorelaxants, enfin je sais pas, j'avais déjà eu des torticolis, on m'avait prescrit des trucs pour détendre les muscles.
J'ai vraiment envie
de faire
une blague
à d'autres muscles.
Détendre le cul.
je sais, à ton regard, je l'ai compris. Mais voilà, j'y suis allé dans l'optique de me faire prescrire des médicaments pour me détendre. Et sauf que direct, elle m'a dit bah non, elle m'a prescrit des antidépresseurs. Et
d'ailleurs,
ouais, attends. Non.
Des anxiolytiques.
Des anxiolytiques, ouais, pardon, je confonds. Oui, j'ai jamais pris d'anxiolytiques. Des anxiolytiques. Et en fait, elle m'a sauvé pour le week-end, on va dire, parce que du coup, j'ai pris ces médicaments-là. Et d'ailleurs, c'est quand même assez.
C'est ouf.
C'est vraiment
très
incroyable.
Addictif,
enfin,
ouais.
Moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit. Mais en fait, enfin, c'est génial l'état dans lequel je suis, parce que du coup, toute ma mission, bon, c'était un tournage, ça s'est hyper bien passé. C'était vraiment fou. C'est-à-dire que je réagis toujours assez bien aux défis qu'il peut y avoir sur le moment, genre bah tiens, il y a tel problème. Enfin, j'aime bien, c'est une partie de mon métier que j'adore. Mais là, j'étais très stressé et en fait, genre, il y a eu des grosses décisions à prendre et tout. Et j'étais là, en fait, j'avais tout le recul nécessaire pour le prendre. Dès qu'il y avait besoin, si il fallait que je prenne du temps pour réfléchir, bah j'assumais. Je disais bah là, j'ai besoin du temps pour réfléchir et tout. Et au final, tout s'est hyper bien passé. Donc du coup, en fait, je suis rentré en me disant oulala, il faut vraiment que je trouve une solution non médicamenteuse, parce que sinon je vais devenir accro à ces trucs là en fait, moi j'ai vraiment la peur de devenir accro. Et du coup dès que je suis rentré dans mon tournage, je t'ai demandé les coordonnées de la thérapeute en question, et je l'ai vu très très vite, et voilà, ça a été génial. Mais du coup, je pense que si je ne t'avais pas connu, j'aurais pas fait appel à une autre forme de thérapie, et j'aurais pu me retrouver dans la même situation et potentiellement reprendre des anxiolytiques, voilà. et j'ai déjà été tenté d'en reprendre parce que j'ai déjà eu d'autres stress et j'ai été tenté. Je sais que j'ai cette boîte chez moi où il reste encore, parce que j'en ai pris seulement pendant 2 jours, donc il reste encore quelques cachets d'anxiolytiques, et je me dis franchement ça serait si simple de les prendre, mais voilà, j'ai jamais, enfin je sais que je les prendrai pas parce que j'ai ce recours là, cette méthode là qui a super bien marché avec moi.
Mais c'est intéressant du coup, de ce que j'entends, c'est que les anxiolytiques, ça traiterait la conséquence, qui est très agréable en fait, parce que ça te permet de répéter encore et encore le fait d'aller au-delà de tes limites, mais ça traite pas la cause.
Non.
Et c'est ça moi qui m'a interpellé là dans... En fait, si je suis allé chez un généraliste, enfin une généraliste, c'est parce que j'allais très mal et j'avais besoin que ça se règle maintenant. Parce que pour dire vraiment, moi j'étais en pleurs du matin au soir... Je n'avais plus aucun sens de ce que je faisais de la journée. Et j'étais dans une période où je devais rendre des trucs, et c'est encore le cas aujourd'hui, et je vais y venir après, mais des trucs très importants, en fait. J'avais des diplômes à passer, j'ai des trucs à rendre avec des engagements contractuels de toutes parts, et des trucs que sur lesquels j'ai travaillé depuis peut-être 3 ans, en fait, à obtenir. Et du coup, je pouvais pas me dérober à ça. Et moi, à la base, un peu comme toi, enfin, moi, c'était pas des douleurs physiques, mais j'y suis allé en disant, bah, j'ai besoin d'un papier qui dit que j'ai besoin d'un petit report de 2 semaines, 3 semaines parce que je vais pas y arriver. Sauf que moi, je suis freelance. En fait, elle m'a dit, si vous étiez salarié, je vous aurais arrêté pendant 3 à 6 mois. Parce que là, c'est grave. Et elle m'a dit, je vais vous faire un papier pour qu'il vous laisse un peu tranquille pendant 1 mois. Mais si vous devez rendre des trucs, en vrai, il faut vous médicamenter et vous teniez le coup. Donc moi j'ai été mis sous antidépresseur et anxiolytique, et en fait les anxiolytiques comme toi ça a été mais un régal, et je dis pas ça, on fait pas ça pour faire l'apologie des anxiolytiques et des médicaments, mais moi c'était un régal parce qu'en fait je réfléchis trop toute la journée, c'est vraiment ça peut se retourner contre moi, et avec les anxiolytiques je réfléchissais à bonne dose et à bon escient, et comme toi en fait, tu vois, tu pouvais prendre le recul, le temps se ralentit, tu peux prendre les bonnes décisions et juste ne pas surréfléchir tout ce que tu fais, et l'arborescence en fait est vachement réduite, l'arborescence des choix qu'on a dans une journée. Donc voilà, moi j'ai pas eu peur de tomber addict parce que j'ai fait ça pendant 1 mois et demi jusqu'à ce que ça devienne lassant, parce qu'en fait ça réduit tes capacités, enfin moi ça m'a réduit mes capacités cognitives, et donc après je me suis dit il faut que je traite la cause et pas juste les conséquences. C'est là où je reboucle avec ce que tu disais, c'est que toi t'as eu la présence d'esprit de dire ok c'est plus profond que ça et il faut que j'aille régler directement la source, et t'as eu aussi, on connaît tous aujourd'hui dans nos âges à la trentaine, on a forcément dans notre entourage quelqu'un qui a fait une thérapie qui a été efficace, ou un coaching qui a été efficace, ou qui a eu recours à une méthode qui est efficace, tentez-le. Et vraiment, ce qui compte le plus, c'est de tenter l'adéquation avec le ou la thérapeute et la méthode qu'il utilise. Mais si ça marche, allez-y, vous posez pas de questions et il n'y a pas de honte. Et c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi au bout de 10 ans, je me suis dit « Ok, maintenant c'est bon, il faut que j'arrive à m'en sortir tout seul ». Et je comprends pas pourquoi, d'où m'est venue cette fierté. Et là, au jour où j'enregistre ce podcast, j'ai recommencé une thérapie sur le sujet que je rencontre, et j'en vois déjà les effets. Je pense que même le fait d'être capable d'en parler aujourd'hui, c'est un premier effet de la thérapie, et le fait d'assumer que j'ai besoin de temps, c'est un effet de la thérapie, et ça me soulage fort. Donc, le résultat, conclusion, vraiment, allez en parler si vous avez les moyens, parce que il n'y a pas de honte, et je crois même que c'est une preuve de beaucoup de force que d'accepter qu'on a besoin d'être aidé, et on a les possibilités aujourd'hui, donc profitons-en, quoi.
Oui, puis même, enfin, tu parles de, bon, il y a les moyens certes, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de thérapeutes qui ont conscience des limites de budget et qui affinent leurs tarifs en fonction des revenus des personnes avec qui elles travaillent. Donc,
complètement, et merci de le dire, parce que la première fois que j'ai fait ma thérapie il y a 10 ans, moi j'étais au RSA, donc faut vraiment réaliser, j'ai pu faire une thérapie au RSA parce que j'ai osé en parler au thérapeute qui me suivait. Et il a ajusté ses tarifs en fonction de moi. Et si c'est important pour vous, parlez-en. Y a pas de fierté vis-à-vis de ça. Votre santé passe d'abord. Et un bon thérapeute, sans dévaluer le travail qu'il fait, parce que moi-même, je suis psychopraticien aujourd'hui, donc je sais que je brade pas mes prix de ouf. Mais il y a un échange qui est possible d'envisager. Et votre bien-être est important. Et si lui ou elle ne peut pas répondre à ça pour des raisons financières, pour lui ou elle aussi, enfin, c'est important de respecter ça. Si c'est un bon ou une bonne thérapeute, il vous orientera vers quelqu'un qui est plus flexible, ou en tout cas vers qui la négociation est plus envisageable, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de honte à en parler. Et oui, donc moi j'avais déjà fait, comme tu l'as dit Armen, un burn-out il y a 2 ans maintenant. Et en fait c'était un burn-out sous salariat, Vraiment l'impression que j'étais sous perfusion, quoi. En salariat.
De cesser de salariat, vite.
Stats. J'étais en salariat et en fait, j'étais oppressé par ma boss. Et j'avais osé comprendre que j'étais en burn-out parce qu'un médecin me l'avait dit, hein. Encore une fois, je l'avais pas vu par moi-même. Je pensais que c'était normal de pleurer tous les soirs et le matin. Spoiler, ça ne l'est pas.
Spoiler.
Et en fait, il m'avait arrêté, mais j'avais accepté parce qu'en plus, j'avais été payé en tant qu'arrêt maladie, donc j'avais réduit mon salaire, mais j'étais payé en tant que salarié. Et je m'étais dit, ah, j'ai connu le burn-out, je vais pouvoir le reconnaître. Et là que je suis à mon
compte, non.
Je l'ai vraiment pas vu, mais parce que je suis mon propre boss et je suis toxique. Et je bosse sur ça en ce moment, de boss sur le fait d'être un boss.
Oh,
c'est méta. Super Zuckerberg. C'est tout un sujet. Je sais que ça va parler à très peu d'entre vous, mais le fait d'avoir été mon propre patron, ça m'a mis dans le mur. Et le deuxième truc, c'est que le fait aujourd'hui de vouloir créer, je me suis fait complètement embrigader dans ce truc de tout ce que les agents que j'ai eu au téléphone ou les diffuseurs que j'ai eu au téléphone ou les producteurs que j'ai eu au téléphone me disent, faut produire pour pas que le public t'oublie. Et désolé, en fait, je n'ai jamais fait mise à mal pour pas qu'on m'oublie, ou j'ai jamais fait mise à mal pour avoir une régularité de plomb, ou je crée pas pour ça, en fait. Et je sais pas, j'ai fini par prendre pour moi ces injonctions-là, alors qu'en fait, ça me fait beaucoup plus de mal que ça. Et là, le fait que je n'arrive plus à créer sous ces conditions-là, c'était vachement dur pour moi de le reconnaître. Et il est possible qu'après cet épisode et après mes, je sais pas combien de temps de pause là que je prends, il y a la moitié d'entre vous qui partent et ça me fait extrêmement peur, mais je suis prêt à le risquer parce qu'en fait, ça serait pas me respecter de continuer dans ces conditions-là. Et en vrai, ça serait pas vous respecter que de continuer à faire du contenu médiocre parce que je vais pas bien et parce que je suis à moitié là quand on enregistre, quoi. Mmh.
Ouais. Mais je pense, enfin, ce qui fait ta force et ce qui fait la force du podcast, c'est l'authenticité justement de la démarche. Et tu peux pas appliquer des concepts uniquement commerciaux, parce que là, les trucs de il faut poster régulièrement et tout, c'est que des trucs de stats, de suceur d'algo, de pardon, de flatter l'algorithme d'Instagram ou voilà, et uniquement dans le but d'avoir de la pub. Enfin voilà, c'est uniquement là-dessus. Donc, je comprends complètement que ça te touche, parce que aussi en tant qu'indépendant, il faut bien que t'aies des revenus. Mais ça nous montre encore une fois que tous les schémas ne s'appliquent pas à tout le monde, quoi. Donc,
Et puis je me suis rigidifié sur ça, alors qu'en fait j'ai d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est juste que je me suis dédié pendant un an au podcast et à tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Mais le fait d'être dans des médias, d'aller dans d'autres podcasts et de préparer un livre, donc du coup je le pose là.
Name
aussi.
Drop.
En fait, j'ai lancé une newsletter il y a un an sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. D'ailleurs, le lien est en description. Et à la suite de cet épisode-là, genre 10 jours après que cet épisode sera diffusé, je ferai un petit sequel, tel un Marvel, à cet épisode, en parlant d'autres choses. Donc ma newsletter est entièrement consacrée au malaise et qu'est-ce que le malaise en tant qu'homme nous apprend pour nous déconstruire. Et cette newsletter a intéressé une maison d'édition qui, du coup, enfin, c'est signé, ça va devenir un livre. Donc, j'en parle pas plus pour l'instant, même du contenu, etc., parce que j'ai pas trop envie de m'avancer. Mais j'ai besoin de me concentrer sur ça et j'ai très peur que ça fasse pédant de le dire. Mais en fait, je n'ai pas d'énergie à consacrer à autant de projets que je considère artistiques. J'ai du mal à le dire, mais en fait, je vais puiser très loin pour proposer ce que je propose, même si ça a l'air simple. Et j'y arrive plus, en fait. J'ai besoin d'un temps pour me recharger plutôt que de dégueuler du contenu qui serait insipide et qui... Enfin, voilà, donc... Mais peut-être pour avoir un peu plus de recul, Armen, toi, sur ton pré-burnout, qu'est-ce que t'en as appris? Parce que du coup, t'as appris des anxiolytiques pour survivre pendant tes tournages, parce que t'es réalisateur. Enfin, comment tu te définis?
C'est une très bonne question, chef opérateur.
Chef opérateur, ouais. T'as pas envie de te définir chef opérateur,
non,
je l'ai entendu dans ta voix.
Non, parce que je pense pas avoir les capacités pour l'être, mais techniquement c'est à peu près ça. À mon niveau, je suis chef opérateur.
Ouais. T'es chef op?
Je suis chef op.
Okay, ouais. Donc en tant que chef op, qu'est-ce qui a fait que, après, quelles leçons t'en as tiré du coup de cette thérapie ou de ce coaching que t'as fait, et aujourd'hui, comment est-ce que tu repères les signes que du burn-out.
Bah, que j'étais pas prêt à tout pour ma carrière et aussi pour de l'argent, en fait. C'est surtout ça la leçon que j'en ai retenue, c'est que mon bonheur n'est pas du tout indexé sur la taille des projets que je fais et sur l'argent que je gagne. Et ça m'a fait réaliser que je pouvais être très heureux en faisant moins et avec moins d'envergure. Et du coup, maintenant, j'arrive à reconnaître les signes, en fait, plus tôt. Et donc, du coup, je peux... Ouais.
Non.
Non, et du coup, je peux dire, bon, bah, non, stop, quoi. Ce projet-là, c'est pas pour moi, désolé. Je vous oriente vers quelqu'un d'autre. Mais voilà, assumer le fait de me dire, bon, bah, voilà, ce projet-là, il était très bien payé, ça aurait été cool pour mettre dans ma bande démo, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là. Je pense que c'est assez logique avec ce que j'avais dit dans le podcast sur l'argent. C'est que je cours plus après l'argent, je cours plus après les gros projets, après la renommée. Je m'en fous. En fait, maintenant, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de, c'est de me sentir bien, en fait, voilà, tout simplement, et de me sentir bien avec mon entourage. C'est-à-dire que pour moi, le pire que j'ai ressenti pendant ces deux moments-là où je me sentais vraiment pas bien, on va dire ces deux pré-burnout, c'est que je me sentais plus connecté à mon entourage. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'horrible, quoi. Je me revois vraiment avec ma femme en train de discuter et n'importe quelle discussion, même genre je sais pas qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ou quoi, j'étais pas dedans, quoi. Et ça me rendait dingue de me dire putain, mais je suis en train de passer à côté de moments, voilà, et j'ai pas loupé la naissance de mon fils ou quoi, mais pour moi juste le fait qu'il y ait des moments où je suis entouré de personnes que j'aime et de pas réussir à en profiter, je trouve ça hyper hyper triste et hyper dommage. Donc du coup c'est ça qui fait que voilà, ce signe là voilà, maintenant j'arrive à le capter. Dès que je sens que je suis plus dans une discussion ou que j'arrive pas à être dans le moment présent alors que je suis entouré de quelqu'un que j'aime, et ben je me dis bah là il y a un truc qui va pas, il faut que je fasse quelque chose. Je pense que ça c'est ma ligne rouge maintenant. Ouais,
c'est hyper important ce que tu dis, parce que on a l'impression que c'est un signe anecdotique, genre oui bon bah je suis pas très là, c'est pas grave, et en fait pourquoi d'autres ont envie, enfin, j'ai l'air d'un bisounours à dire ça, mais parce que moi c'est ce qui m'a pas alerté, et du coup je m'en veux, mais moi j'ai commencé, donc comme je disais, à être agressif en fait envers mon entourage. Il y a eu deux signes. Le premier, c'est toi en fait, Armen, qui me l'a dit, mais tu me l'as dit il y a peut-être 10 mois ou 11 mois, il y a assez longtemps. Tu m'as dit, mec, par contre, on se voit que pour bosser. Et je t'avais dit, bah non, on enregistre, c'est cool. Il me fait, ouais, mais en fait, les enregistrements, c'est du boulot, c'est quand même de la concentration. Et j'avais pas capté que j'avais complètement mélangé les moments où on se voyait pour enregistrer que des moments où on se voyait pour kiffer. Qui, à ce moment-là, à l'époque, était un lié, tu vois. Pour moi, c'était un gros kiff d'enregistrer. Mais il n'empêche qu'on était là pour jouer des rôles. C'était pas évidemment qu'on n'est pas pareil en enregistrement que, et j'adorerais qu'on soit les mêmes personnes, mais c'est pas possible, en fait. Bah oui. J'essaie de m'en rapprocher le plus possible. C'est pour ça que on boit moult alcool et on essaie d'avoir une ambiance décontractée, mais ce n'est pas possible. Ça reste une fiction, quoi qu'on fasse. Et c'est pas grave, on va continuer à la faire, mais en prévenant. Donc, c'est le premier signe où je me suis dit, il faut que je me détende. Et j'avais pris un petit pas de recul à l'époque. Mais c'était pas suffisant. Et cet été, j'ai commencé à être très agressif, à être très agressif avec ma copine et de pas comprendre pourquoi et de m'en vouloir et de lui en vouloir surtout, alors que c'était pas elle le problème. Et moi, un des énormes signes, mais c'est peut-être très personnel, mais c'est de me couper de mon environnement. Comme toi, sauf que moi, c'est très flagrant, c'est-à-dire que je ne voyais plus les gens. Je répondais plus aux textos et j'en ai encore en attente. Non répondu de gens qui m'ont écrit il y a des mois, et maintenant j'ai honte parce que si je leur réécris pour leur dire oups,
ah bah zut, mon message est pas parti,
désolé, je me faisais des pattes, donc c'est un peu con, quoi, et j'ai honte maintenant et ça s'empile et c'est dommage, mais je pense que la manière dont on traite nos relations, c'est un excellent indicateur de comment on va. Donc merci de le mentionner, parce que c'était ma question, c'est quels sont pour toi les signes, et c'est très personnel, et je sais pas, soit faut très bien se connaître, soit faut en vivre un. Mais ouais, quels sont les signes du burn-out pour toi, quoi?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire moi, pour moi, ces instants-là, justement, mes rapports avec mes amis, avec ma femme, pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fait. J'ai pas du tout de rêve de carrière, d'argent, de reconnaissance. Voilà, j'ai une vision de la vie assez. Ça va sonner. Comment dire, péjoratif, ça ne l'est pas, mais pour moi, la vie est assez, assez futile, dans le sens où, justement, ce qui est important, c'est tous ces petits moments-là, ces trucs. Par exemple, j'ai pas l'impression de vouloir donner spécialement un sens à ma vie. De vouloir avoir un impact sur le monde, qu'on se souvienne de moi. Je sais que je vais pas changer le monde. Tout ça, j'en ai vraiment. Enfin, j'en ai rien à foutre, quoi. Et donc, du coup, pour moi, ce qui est important, c'est tous les. Tout ce qui est à mon niveau, dans le sens où, voilà, dans mon entourage proche, quoi. Et du coup, bah, dès que je commence à passer à côté de ces moments-là, pour moi, je loupe des moments. Ce qui fait l'intérêt de la vie pour moi.
Ouais.
Mais j'imagine que pour d'autres gens, ça va être super différent. Pour eux, ça va être au contraire, dès qu'ils vont prendre des décisions qui les éloignent de leur but professionnel ou quoi, et sans aucune critique, hein. Mais c'est juste pour dire que voilà, je pense que chaque signe d'arrivage d'un burn-out va dépendre en fonction de notre personnalité.
Oui, mais c'est vrai que prêter peu attention à ses relations,
oui,
c'est quand
vrai,
même
bien sûr.
Un signe,
oui,
en tout cas,
oui,
qu'on a eu tous les deux.
Sauf pour quelqu'un qui a l'habitude d'être tout seul tout le temps et tout, mais pour pour nous deux qui... mais en tout cas nous, c'est vrai qu'on se voit, a priori on aime bien se voir quand même. Et du coup, oui, c'est ça, de se rendre compte qu'on en profite plus, soit qu'on n'a plus la démarche de le faire. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ouais. Ça, et moi, il y a eu un autre signe qui était la fatigue, mais je pense que ça, c'est personnel. Il y a eu un truc de j'ai plus l'énergie pour entreprendre d'autres trucs. Bon, ça, qui peut se dire, voilà, c'est fatigue passagère, mais il y avait de la monotonie dans ce que je faisais qui était censée me plaire de base. Et pour moi, la monotonie, c'est un symptôme.
Mais la monotonie, c'est une impression, c'est relatif, la monotonie. Donc c'est toi, quand tu as l'impression de faire tout le temps la même chose, c'est là qu'il y a quelque chose qui va pas.
C'est ça. C'est pas tant d'avoir l'impression de faire tout le temps la même chose, mais c'est l'impression de faire quelque chose avec tout le temps la même saveur. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est dire, je fais, tu vois, par exemple, enregistrer Mise à Mal. C'est à chaque fois une énergie différente parce que j'invite jamais les mêmes gens. Alors même si ça gravite autour des mêmes personnes et tout, mais je fais toujours en sorte qu'il y ait pas toujours les mêmes groupes qui se retrouvent, puis c'est pas les mêmes sujets, en fait on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes vécus et tout ça, et donc c'est censé me stimuler. Mais là, sur les derniers enregistrements, il y avait un truc à la fin d'être complètement rincé et de me dire, ok, j'ai fait un épisode de Mise à Mal, mais c'est un épisode de Mise à Mal, c'était pas c'est l'épisode sur les règles, c'est l'épisode sur les hypersensibilités. Ils avaient plus de petites saveurs particulières, de petites teintes particulières qui faisaient qu'ils étaient différents, et c'est ça que j'appelle la monotonie, quoi. Et c'est surtout, oui, le fait de me sentir vidé de mon énergie après coup, ça c'était pas normal, et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à me dire, j'ai besoin de me ressourcer, et c'est très personnel, parce que je suis introverti, et parce que voilà, mon énergie est comme ça. J'ai besoin de me ressourcer en allant emmagasiner des choses et sans arrêter et sans donner chaque once de choses qui m'arrivent publiquement. Je n'ai plus rien. C'est-à-dire, si qu'à chaque fois il m'arrive quelque chose, je dis « Ah, c'est trop intéressant, je vais le dire », je le dis, j'ai plus rien. Et du coup, ça fout un stress de me dire « Mais j'ai rien d'avance, je suis pas intéressant. » Je pense que pendant quelques temps, j'ai besoin de me sentir pas intéressant et que ça soit OK, quoi. Mais je pense que c'est important aussi que je le livre tel quel, c'est que c'est hyper confus, j'ai pas de recul, je sais pas où je vais avec ça, en fait. J'aimerais bien en tirer une morale, mais j'en ai pas. Et j'espère juste que c'est utile, parce que sinon, ça veut juste dire du temps de perdu pour nous deux, là, et du temps de perdu pour vous qui écoutez. Donc, j'espère que ça aura de la valeur. Mon intention, c'était d'être le plus sincère en plein milieu, et voilà ce que ça donne quand c'est pas... Quand c'est pas le mythe du survivant ou le mythe du héros, c'est juste, c'est la merde. Je sais que ça va aller, ça c'est vraiment une grosse différence, c'est ce qui montre que je suis pas en dep, que je suis pas en dépression, je suis juste complètement cramé, j'ai l'espoir dans l'avenir parce que je suis très bien accompagné et vraiment c'est le plus important, et je m'en remets à eux et je m'en remets aussi à ma volonté d'aller mieux maintenant que je fais plus le malin et que j'ai plus d'égo là-dessus. J'ai besoin d'aller mieux et c'est ce que je vais m'attarder à faire pendant quelques mois, quoi. Voilà, j'espère décevoir personne et j'espère que vous serez là de nouveau quand je reviendrai.
Et si vous avez tenu jusque-là, en tout cas, j'ai bon espoir que vous serez encore là quand je reviendrai.
We'll be back.
J'ai rigolé en faisant Batman. Comment rigolent les chauves-souris? En ultrason.
Ah non, c'est Michael Jackson.
C'est Michael Jackson. Michael Jackson était une chauve-souris.
What?
Donc voilà, un épisode hybride entre le burn-out et ma situation. J'avais prévenu, ok, spoiler, j'avais prévenu, spoiler à la fin. Le mec a vraiment rien compris à rien. Et je t'ai pas trop questionné sur ton expérience à Armen, donc je sais pas si t'avais des choses à ajouter à ton burn-out, à ton pré-burn-out, parce que en fait, t'en as pas vraiment fait un.
Ouais, non, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, et voilà, juste je le répète, le meilleur moment pour y réagir, c'est le plus tôt, voilà, donc même si c'est trop tôt et qu'au final ça allait, vaut mieux qu'il y ait une fausse alerte plutôt que d'attendre trop. Donc voilà, laissez votre fierté de côté et tournez-vous vers vos proches et vers des professionnels.
Non mais vraiment, et c'est vraiment très juste, merci de le rappeler, parce que je l'ai dit sur Instagram il y a quelques jours, mais il y a vraiment ce truc de n'attendez pas que ça aille mal pour vous occuper d'aller bien. Et en fait, je le dis vraiment sans faire le coach qui a tout compris, parce qu'en vrai, moi je vais mal et je regrette d'avoir été trop fier pour vraiment m'y enfoncer beaucoup trop profondément. T'as envie de réagir, Armel, sur cette phrase?
Non, d'accord. Je laisse les mots faire le travail.
Avant de me dire, y a quelque chose, il y a eu trop de signes et j'ai besoin de m'en occuper. Je pense qu'il n'y a jamais de trop tôt, en fait. Si t'as une intuition ou un pressentiment ou quelque chose, tu dis, ça c'est important pour moi, c'est pas trop tôt, en fait. Juste saisis-le et règle-le sans penser aussi. Je pense que c'est ça qui m'a fait énormément résister à aller chez ma thérapeute de nouveau. C'est que j'en avais marre de me croire en permanence cassé. Et je pense que j'étais dans ce truc-là, non, je suis pas cassé, non, je vais résister parce que du coup, je suis pas cassé, je vais montrer que je suis pas cassé et que je peux y aller, je peux continuer. En fait, je suis pas cassé, mais c'est juste, la vie, ça bouge tellement, ma situation, elle est tellement différente d'il y a 2 ans, d'il y a même 6 mois, etc. Je suis tellement une autre personne que j'ai besoin de m'ajuster. Et il s'avère que dans ce contexte-là, je n'avais pas encore tous les outils. Et donc, c'est juste que j'avais besoin de m'outiller différemment et j'étais pas encore capable de le faire, ne serait-ce que pour démêler ce qui m'arrivait et comprendre. Ça se trouve, j'ai tous les outils, j'ai juste pas compris ce qui m'arrivait et où placer mes pions, quoi. C'est juste ça. Donc,
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous soulagera d'une certaine manière. Moi, je vais me concentrer sur le livre que j'ai à écrire. Si vous voulez suivre un peu mes péripéties, je vous recommande de vous abonner à ma newsletter. Je pense que je donnerai beaucoup plus de nouvelles sur ça parce que c'est un média plus confidentiel et je m'y sens un peu plus libre. Donc voilà, si vous voulez plus de nouvelles, abonnez-vous, je vous enverrai des petits mails. Je spamme pas du tout, je pense que j'envoie une fois par mois, peut-être une fois toutes les 3 semaines au grand max. Et je reviendrai une fois que j'aurai rendu mon manuscrit, donc au plus tard, en janvier-février 2023. J'espère pas m'avancer en disant ça, mais je pense que ça devrait aller mieux d'ici là. Et en attendant, moi je vais continuer mon travail avec ma thérapeute. Prendre du temps pour moi, prendre du temps pour être avec les gens que j'aime, donc avec toi, Armen, avec des amis, faire des activités, faire du sport, que j'ai complètement oublié de faire parce que je suis influenceur fitness et je ne respecte pas...
Et Babtou Fragile,
et je ne respecte pas mon travail. Être avec ma copine et l'aimer parce que c'est vraiment trop cool. Et me laisser aimer aussi, même quand je vais mal. Ça, c'est un message, c'est un enseignement important que j'ai appris. Que en fait je pouvais toujours être aimable même en allant mal et j'espère que je le serai toujours de vous même après avoir fait cet épisode et ne pas articuler
balèze.
T'as trouvé que c'était malaisant?
Bonsoir.
Je suis là, bon. Je vais briller, brûler
ce billet de 5 euros. Non.
C'est ça, vraiment. Je vais brûler cette pièce de 50 centimes.
Ah bah, ça brûle pas.
Bah, tant pis. Voilà. Allez.
Je vais le mettre dans un chaudron et attendre 4 heures.
On va faire quand même une petite conclusion de base, basique. Et dire
ouais.
Simple.
Oh putain.
Ok, super.
C'est mieux. Ok, super. C'est un peu plus jeune.
C'est un peu plus. Voilà, c'est 2022. Quel serait le mot que tu utiliserais pour qualifier ta relation avec le burnout?
Eh ben, je pense que ça serait appréhension, parce que je suis très passionné dans ce que je fais, en général, et avec le travail notamment, en amour aussi, c'est vrai. Et du coup, je sais que ça peut être un risque que j'en fasse trop sans me rendre compte que j'en fasse trop, parce que justement, c'est une passion, un plaisir. Donc voilà, je garde toujours en tête que c'est une possibilité et qu'il faut que j'y fasse attention.
Et moi, je sais pas, je dirais incompréhension pour raisonner avec le tien. C'est que je ne sais toujours pas quels sont les ingrédients qui provoquent mon burn-out, et j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que, de manière identitaire, je vais toujours trop loin, parce que c'est pas viable, en fait. Je peux pas continuer à travailler de manière saine si je me détruis en le faisant. Ben voilà, mais j'espère, applaudis cœur, que cet épisode vous a plu. Armen. Armen.
Bah, mon vélo.
Bah, mon vélo va marcher maintenant qu'il est en burn-out. Merci beaucoup d'être venu sur cet épisode spécial.
Non, mais avec plaisir. Merci pour ta confiance, pour cet épisode ô combien à fleur de peau et à fleur de cœur, si je peux dire.
À flot de peur.
Oh là là.
À fleur de peau.
Je l'avais.
Ah ouais, pardon.
Si con que ça. Eh, t'as compris.
Eh, en fait.
Toi, à comprendre.
vraiment merci, parce que c'est un épisode particulier. J'étais très content de faire cet épisode avec toi. J'espère qu'on en fera un autre. Mais tu sais quoi, j'espère pas. Je le promets.
Eh, on se donne rendez-vous. Ok, même jour, même heure. Ok.
Vraiment dans 10 ans, quand j'aurai récupéré de mon burn-out. On fera un autre épisode plus léger, plus foufou. On sera nus, par exemple,
dans la campagne. Je verrais bien. Là, je veux un épisode dans la nature. Voilà. Moi, je te le dis.
Allez.
Moi, je suis créa, moi. Donc, voilà. Je me vois.
Je suis chaud.
Soleil couchant.
Ouais.
Petit pique-nique, tu
continue,
vois.
Continue, ouais.
Ouais.
Et lubrifiant.
Lubrifiant.
Ouais.
Je sais pas. Ah, pas non, besoin.
Pas. voilà. Mais en tout cas, chers applaudisseurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode un peu particulier. J'avoue que je le poste en étant mal à l'aise parce que je me sens très vulnérable, mais je pense quand même que c'est important. Si vous voulez soutenir Mise à Mal, même en temps de pause, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur votre appli de podcast préférée, parce que le référencement, c'est un peu le nerf de la guerre et ça m'aiderait à rester dans les classements et de pas décrocher malgré la pause que je dois faire. Aussi, si vous voulez des nouvelles de moi ou des projets que je prépare, et même en lien avec Mise à Mal, vous pouvez me retrouver sur le Patreon, que je vais continuer à alimenter parce que j'ai des engagements par rapport aux gens qui sont déjà abonnés. Donc c'est 5 euros par mois et il y a tout plein de choses. Et si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas donner d'argent, je comprends. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter qui est tout à fait gratuite. Encore une fois, merci beaucoup. J'ai hâte de me rétablir et de vous retrouver en pleine forme. Je vous fais des bisous.